Hallelujah. J'ai un message pour vous. Est-ce que vous êtes prêts pour un message de Noël? Amen. Donc, on va faire lecture de pas mal de passages. Donc, si vous voulez prendre une Bible, il y en a des Bibles derrière. Le message que le Seigneur m'a donné s'intitule « Notre réponse à la parole de Dieu ». Notre réponse à la parole. Et nous allons regarder donc la réponse de plusieurs individus à la parole, à une bonne nouvelle qui leur a été donnée. Et j'ai marqué donc un verset de référence, Luc chapitre 1, verset 38. C'est la Marie qui dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». On va voir d'autres réponses, on va voir d'autres résultats et on va faire quand même lecture de pas mal de l'histoire de Noël. Et j'espère que ça va vous bénir. Mais juste avant, si vous avez votre Bible en main, ou votre tablette, ou votre smartphone dans lequel vous lisez votre Bible, dites ceci avec moi. Voici ma Bible. Je suis ce que la parole de Dieu déclare à mon sujet. Je possède tout ce qu'elle affirme et je suis capable de faire tout ce qu'elle me promet. J'aligne mes pensées, mes paroles et mes actions sur la parole de Dieu. Ainsi, je remporterai la victoire à la gloire de Dieu dans tous les domaines de la vie. Ce que je dis s'accomplit dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Quelle est notre réponse à la parole de Dieu? Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Il y a deux semaines passées, j'ai donné un verset qui m'a sauté du page. Donc, c'est un verset que je connaissais. C'est en Hébreu, chapitre 4 et verset 2. Il est marqué car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole ne leur fut annoncée, qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendent dire. Que c'est dommage que nous avons la semence incorruptible de la parole de Dieu et ça peut rien produire si nous n'ajoutons pas la foi. Quelle est notre réponse à la parole de Dieu? Donc, notre première lecture va être dans l'Évangile selon Jean. Et on va aller à Jean chapitre 1 et on va lire quelque chose dont peut-être vous connaissez bien. Connaître, c'est une chose. Mettre en pratique dans notre vie, c'est une autre chose. Vous voulez lire avec moi? Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les lumières ne l'ont point reçue. Oh, elle était, heureusement tu es là chérie. Laura, tu es merveilleuse. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 6. « Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que nous crussions par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. » C'est dommage. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Quelle tristesse. Mais, j'aime les mais dans la Bible. Le mais dans la Bible vient toujours après l'échec, après le problème. Le mais vient après la confusion pour amener la lumière. Mais, la Bible dit, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, ou elle, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Quelle est notre réponse à la parole de Dieu? Est-ce que nous la recevons? Est-ce que nous la mettons en question? Ou est-ce que nous faisons le contraire? Regardons quelques exemples qui viennent donc de l'histoire de Noël. Quelqu'un dit que nous n'avons pas assez longue vie pour faire toutes les erreurs nous-mêmes. Et il faut apprendre en regardant les erreurs des autres. Donc, vous pouvez faire deux choses quand vous constatez que quelqu'un fait une erreur. Vous pouvez les juger, les condamner, ou vous pouvez constater, oui, que vous décidez que vous ne voulez pas faire la même erreur. Rappelons-nous, critiquer ne fait pas partie, oui, de les atouts du chrétien ou des dons. Tournons avec moi en Matthieu chapitre 2 et nous allons entendre l'histoire d'Hérode et sa réponse à la bonne nouvelle. Hérode était roi à l'époque de l'essence de Jésus. Il était roi, mis en autorité par les Romains. Rappelons-nous que l'État d'Israël était un État occupé, un pays occupé par les Romains. Et Hérode, on pouvait dire, était un petit peu une marionnette parce qu'il avait les fils attachés à Rome et il avait seulement l'autorité qui lui était donnée. Je ne veux pas faire des excuses pour lui, mais quelquefois, nous pensons que c'est tellement plus facile pour les autres que pour nous. Regardons ce qui se passe dans la vie d'Hérode et surtout sa réponse à la parole. Peut-être vous dites, je connais cette histoire. Nous devons connaître cette histoire. C'est une histoire très importante et nous pouvons apprendre de cette histoire. Matthieu chapitre 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arriver à Jérusalem et dire, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Donc, évidemment, il y a des hommes, des gens qui regardaient dans les ciels. Ils cherchaient quelque chose, ils savaient quelque chose qui allait se passer et ils ont vu une étoile. Ouais. Et ils ont dit, il faut qu'on cherche cette étoile. Donc, ils arrivent en Israël et ils vont vers le roi et ils lui posent des questions et ils ont déjà décidé, nous allons adorer, ouais, ce roi. Un roi, Hérode est un roi. Il y a un autre roi. Est-ce qu'il y a la place pour deux rois? Difficile, n'est-ce pas? Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Pense quelqu'un vient prendre sa place. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa de où devait naître le Christ. Tu ne sais pas réveiller un matin et dit, oh, le monde est dans un tel état, il faut que je trouve une solution. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, je sais ce que je peux faire. Je pourrais envoyer mon fils. Parce que certains ont cette idée de Dieu, tu vois, que quand nous avons un problème, Dieu dit, oh, peut-être je peux résoudre cela. Dieu a décidé quand l'homme, quand Adam et Ève ont péché, oui, il avait déjà conçu un plan de rédemption pour l'humanité. Et pendant, oui, toute l'histoire des hommes, il a commencé à parler par des prophètes qu'il allait envoyer quelqu'un qui allait marcher sur la tête du serpent, qu'il allait libérer le peuple et il a déclaré 700 ans avant la naissance de Jésus qu'il allait naître. Il a déclaré à Michée qu'il allait naître à Bethléem. Rien n'était laissé au hasard. Donc les gens savaient où le Messie, d'où il devait venir. C'est pourquoi plus tard, les gens mettent en question que Jésus, il dit, vous ne pouvez pas être le Messie parce que toi, tu viens de Nazareth. Oui, il a vécu à Nazareth et on lui appelle un Nazaréen. Oui, mais il est né à Bethléem. Vous connaissez pourquoi? Hallelujah! Tout est dans l'ordre avec Dieu. Vous avez un problème actuel dans votre vie? Dieu a la solution. Il n'a pas pensé à ça ce matin quand vous vous levez. Il avait préparé ça avant que le problème ait vu jour. Quelqu'un dit hallelujah. Mais quelle sera notre réponse? Oui? Il est à Bethléem. Et toi, ouais, ils dirent, verset 5, Matthieu 2, 5, ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas, certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Et je pense, Hérode dit, oh là là, un roi, un chef, il va prendre ma place. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoie à Bethléem en disant, « Allez et prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Ce qu'ils devraient faire. Les mages diront, « On part pour l'adorer. » Et Hérode, quelque part à l'intérieur de lui, savait quelle réponse il devait donner, et lui aussi, il devait partir l'adorer. Mais il avait déjà conçu un autre plan. Quelle est notre réponse à la parole de Dieu? Après avoir entendu le roi, verset 9, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce que c'était arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Vous avez déjà vu une étoile filant? C'est quelque chose, n'est-ce pas? Avez-vous déjà vu une étoile marchant? Mais c'est ce que la Bible dit. Mais John, vous croyez ça? Exactement. Oui, oui. Verset 10. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Ils entraient dans la maison, vint le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offraient un présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe, ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. J'aime lire et relire l'histoire de Noël. L'histoire de la naissance de Jésus, parce qu'il y a des miracles, il y a des visitations d'anges, il y a des songes. C'est une des meilleures histoires au monde, parce que c'est vrai. Verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph. Deuxième fois qu'un ange lui est apparu. Première fois pour lui dire de prendre Marie comme femme. Deuxième fois pour lui dire, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle, et car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva pris de nuit, le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Beaucoup de signification là, on n'a pas le temps d'y entrer. Il a fait sortir Israël d'Égypte. Il a fait sortir son fils d'Égypte. Ça continue. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. La réponse d'Hérode va aller de mal en pire. Quelle tristesse! Il aurait dû aller adorer le roi, qui n'est pas venu pour établir un royaume terrestre, mais un royaume spirituel. Et maintenant, il va faire encore pire. Il a envoyé tuer les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout leur territoire selon la date dont ils s'étaient soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs, des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quelle est notre réponse à la parole de Dieu? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on va faire le contraire de ce que nous devons faire? Parce que c'est ça que Hérode fait et il meurt. Il meurt sans jamais rencontrer le Messie. Il meurt et nous pensons à cette atrocité qu'il a commise. Quelle tristesse! Faisons attention que nous ne répétons pas les erreurs des autres. Quelle sera ta réponse à la parole de Dieu? Quelle est notre réponse à la parole de Dieu? Tournez avec moi en Luc, parce qu'on va continuer notre petite lecture de l'histoire de Noël et voir un autre. Il s'appelle Zacharie. Zacharie, c'est un homme remarquable. Vous allez lire avec moi certaines choses qui sont écrites. On est étonné. Est-ce possible d'être vrai? On va commencer verset 5. Luc chapitre 1, verset 5, il dit, « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, pas mal déjà, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. » Je suis étonné par ces quelques mots. Ils étaient tous les deux justes et ils observaient d'une manière irréprochable. Wow! Moi, j'ai les honneurs ce matin. Zacharie et Élisabeth. Quelle sera ça? Ouais. Réponse à la parole de Dieu. On va voir, n'est-ce pas? Parce qu'il est juste et il est réprochable. Et il dit, il n'avait point d'enfant parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Deux problèmes. Et évidemment, c'était un problème pour eux parce qu'ils désiraient un fils. Ça a été une des prières peut-être plus, donné par Zacharie, donne-moi un fils, donne-moi un enfant. Et ils n'ont pas eu. Verset 8. Oh, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par la sorte, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. C'était un grand honneur. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se mit debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé. Et normalement, on voit que chaque fois un ange apparaît, ouais, les gens sont troublés. Pourquoi? Parce qu'il vient de la présence de Dieu. Il vient de la sainteté de Dieu et il vient avec puissance. Amen. Donc, il est troublé. Comment est-ce qu'on sait que c'est un ange et pas un démon? Comment est-ce qu'on sait qu'il va nous faire du bien et pas nous faire du mal? Écoute ce qu'il dit. Oui. Zacharie, verset 12, fut troublé et en le voyant, et la frayeur s'empara de lui, mais l'ange lui dit, ne crains point. C'est, je pense, la phrase qu'on entend le plus de la bouche des anges. Oui, il y a peut-être un ou deux exemples où il ne dit pas ça en premier lieu. Première chose, il dit, ne crains pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'on vit dans la crainte et dans la peur. Ne crains point. Zacharie, car ta prière a été exaucée. C'est très intéressant. Ta prière. Comme s'il avait prié une seule prière toute sa vie. Ta prière est exaucée. Ta femme, Élisabeth, enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. On pensait qu'il doit faire des pirouettes, là. Oui? En train de crier. Oh, c'est... finalement! Quelle est ta réponse à la parole de Dieu? Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrant. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Un peu difficile pour notre doctrine peut-être qu'il faut être né de nouveau pour être rempli du Saint-Esprit parce qu'il ne peut pas naître nouveau. Comment il ne peut pas naître nouveau? Mais Jésus n'est pas encore né. Quand Jésus doit mourir pour nos péchés pour qu'on puisse naître nouveau, n'est-ce pas? Oui, mais Dieu a fait des exceptions dans l'Ancien Testament. Il a rempli de l'Esprit certains prophètes et Jean n'est pas le plus petit des prophètes. Il est toujours sous l'Ancien Testament, mais il dit il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie. Wow. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Oh, c'est extraordinaire. Vous imaginez un ange vous annonce ça sur votre fils et vous dites, wow, allez-y, on y va, Seigneur, oui, oui, oui. Non, ce n'est pas exactement la réponse de Zacharie, malheureusement. Verset 18, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtra cela? Car je suis vieux, et ce n'est pas le plus grand problème. Et ma femme, elle est vieille. Elle est avancée, excuse-moi, en âge. L'ange lui dit, je suis Gabriel. Souvent, on a des anges qui apparaissent et ils ne disent pas leur nom. Mais là, il dit, moi, je suis Gabriel. Ce n'est pas n'importe qui. Ouais, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Tu veux un signe? Voilà un signe. Et voici, tu seras muet. Et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Quelque part, moi, je suis triste pour lui. Oui, pourquoi? Parce qu'il a mis en question la possibilité. Il a dit, ah, moi, je suis vieux, ma femme est vieille. Oui, tu ne peux pas le faire. Et l'ange lui dit, d'accord, je vous donne un signe. Verset 21. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Vous savez, moi j'ai appris ceci. Si vous ne savez pas quoi dire, oui, c'est un peu, c'est pas très poli, n'est-ce pas, en français, si je dis ferme là. Non? Mais c'est clair, n'est-ce pas? Verset 23. Lorsque ses jours de service furent écroulés, ils sont allés chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devient enceinte. Pourquoi? Parce qu'il y avait des relations normales avec sa femme. Quelqu'un dit Alléluia. Certains deviennent trop spirituels pour ça. C'est dommage. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a fait quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Que c'est merveilleux, n'est-ce pas? Tu peux continuer à lire l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste et de la rencontre entre Élisabeth et sa cousine Marie. Mais la réponse de Zacharie, c'est dommage. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ajouté sa foi. Parce qu'il a mis en question, et il a mis en question la capacité de Dieu, la puissance de Dieu d'accomplir ce qu'il a dit. Votre Dieu, est-il capable? Votre Dieu est puissant? Vous êtes calme là. Et s'il vous annonce quelque chose qui, sur le plan naturel, est impossible, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je dis, si vous pouvez dire qu'il me soit fait selon ta parole, taisez-vous. Je pense que Jean a souffert, Zacharie a souffert pendant ce temps. Pourquoi j'ai mis en question? J'ai eu l'ange Gabriel lui-même qui m'annonce cela. Maintenant, il sait que c'est vrai parce qu'il est muet. On va continuer l'histoire, mais maintenant on va parler de Marie. Gloire à Dieu pour Marie. Oh, je sais qu'il y a des gens qui veulent adorer Marie, prier Marie. Je dis, c'est très, très triste parce qu'elle nous a dit de faire ce que Jésus nous dit faire. Et Jésus a dit, tu pries le Père en mon nom. Vous pouvez retourner dans les noces de Cana et vous allez voir. Oui. Marie essaie de dire à Jésus quoi faire et Jésus dit, mais attends. Ouais. On sait qui est qui. Et il a dit, vous faites ce qu'il vous dit faire. Et c'est pourquoi on retourne toujours dans l'évangile et on suit ce que Jésus dit. Oui. Donc on n'adore pas Marie. Oui. Et on ne prie pas Marie. Et on ne prie pas en son nom. Amen. C'est clair? Par contre, nous avons une femme absolument remarquable. Elle a dû être remarquable pour que le Seigneur l'a choisie. Mais on va voir combien elle est remarquable par sa réponse à la parole. Et n'oublie pas qu'elle était là à la croix avec Jésus. Oui, elle était là au tombeau. Et encore, certains ignorent ça, oui, elle était dans la chambre haute. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les premiers 120, oui, disciples qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit en parlant en langue, Marie était là. Amen. Hallelujah. On va lire. Luc chapitre 1, verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Donc peut-être pour nous, de dire quelque chose comme ça, le Seigneur est avec toi, pour nous, on trouve ça courant. Ouais. Mais à l'époque, le Seigneur n'était pas avec eux. Je suis désolé, pendant 400 ans, Dieu n'a pas parlé à son peuple. Son peuple était rebelle. C'est pourquoi ils étaient occupés par les Romains, entre autres. Ouais. Mais tu ne pouvais pas, une femme, même si elle montait à Jérusalem, parce que Dieu n'était pas là à Nazareth, elle montait à Jérusalem, une femme devait rester dehors. Les hommes avaient le droit d'entrer dans le temple et un sacrificateur pouvait entrer dans le Saint des Saints. Mais une femme, non, elle restait dehors. Donc quand l'ange lui dit, le Seigneur est avec toi, et elle entend autre chose que toi et moi. Il dit, mais il y a un problème ici, comment le Seigneur est avec moi? Verset 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point. Alléluia, on retrouve, n'est-ce pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Donc on dit, on ne sait pas, mais on dit que Marie avait entre 13 et 15 ans. C'était une jeune fille. Et voici, car Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, verset 31, car voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Wow! Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je connais point d'homme? Bonne question, n'est-ce pas? Elle a compris les choses. Oui? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et après, il dit, « Pour vous aider, pour t'aider à croire, voici Élisabeth, ta parent, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. » Et un verset qui est merveilleux, si ce n'est pas souligné dans votre Bible, peut-être vous voulez le souligner. « Car rien n'est impossible à Dieu. » Là, il n'est pas en train de dire « N'importe quoi peut arriver. » Il en dit « Rien que Dieu a promis est possible à Dieu. » Oui, parce que quelquefois, on a des gens qui racontent des bêtises. Non, rien n'est impossible à Dieu, donc je veux que mon mari tombe enceinte et qu'il accouche pour nous. Oui, il y a un problème parce que Dieu a dit que c'est pour les femmes. Oui, de tomber enceinte. Oui. Hello? Non, mais il est en train de dire, rien n'est impossible. Quand Dieu dit quelque chose, rien n'est impossible. Et nous voyons la réponse de Marie. Donc, il semble que l'ange n'est pas fâché avec Marie parce qu'elle a demandé comment ça peut arriver. On peut poser des questions, mais écoute l'attitude dans laquelle elle pose ces questions. Et ce qu'elle dit maintenant, verset 38, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. » Et il semble que ça suffit pour l'ange, parce qu'il dit, « Et l'ange la quitta. » Quelle est notre réponse à la parole? Quelle est votre réponse à la parole? Vous voulez regarder un instant avec moi en Jacques chapitre 2. Quelle est notre réponse? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Quelles sont les promesses, oui, qui ont sursauté de votre Bible pendant que vous étiez en train de lire? Qu'est-ce que Dieu a dit dans votre cœur? Il va parler toujours en accord avec sa parole, parce que c'est le même esprit qui a inspiré les hommes d'écrire la parole qui habite dans nos cœurs, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Et quelle est notre réponse? La parole de Dieu dit, en Jacques chapitre 2, verset 26, « Comme le corps sans l'âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Une traduction dit que la foi sans les œuvres correspondantes ou sans les actions correspondantes est morte. Il y a toujours une action, ouais, qu'il faut ajouter à la foi. Et normalement, la première action qu'il faut ajouter à la foi, c'est parler. Amen? Parler. Si vous dites, je ne sais pas quoi faire, parler. Parler en accord avec Dieu. Dieu vous a donné une promesse, commence à réciter cette promesse. Apprends cette promesse et déclare cette promesse. Et vous allez voir, il y a d'autres actions à faire aussi. Mais ça commence toujours avec nos paroles. Quelle est notre réponse à la parole de Dieu? Notre réponse a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Ma première réaction à la parole, c'est toujours oui. Oui, Seigneur. Je peux vous donner quelques promesses? Amen. Tournez avec moi en vitesse en Jean 10:10. Verset qui nous a beaucoup influencés dans notre vie, Laure et moi. Jésus dit pourquoi il est venu. Et je pense que c'est très important parce qu'il n'est pas seulement venu dans ce monde, mais il est venu dans mon cœur. Ouais, il a frappé à la porte de mon cœur et j'ai ouvert la porte de mon cœur. Ouais. Il est venu pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il désire faire chez vous? Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Si on doit parler du diable, rappelons-nous toujours qu'il est vaincu. Il est vaincu à la croix, il est vaincu dans ma vie, il est vaincu dans ma famille, il est vaincu dans cette église. Amen? Ouais. Il veut faire ça, mais je ne lui donne pas droit de le faire chez moi. Pourquoi? Parce que Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà la parole. Une parole que Dieu m'a donnée pour vous donner ce matin. Quelle est ta réponse à cette parole? Acceptez-vous cette abondance? Certains ont cru que Jésus dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous vivez dans le luxe. Ah non, mais on a des gens qui vont dans des robes à cause de cela. Parce qu'ils veulent amasser les choses, ce que nous avons déjà entendu ce matin, très bien dit. Oui, on n'est pas ici pour l'éternité. N'amassons pas les choses ici, parce que la teigne et la rouille vont les détruire. Mais amassons pour l'éternité, ça veut dire quoi? Dieu désire vous donner l'abondance pour que vous puissiez aider le plus grand nombre. Juste assez, Seigneur, je veux juste assez. Ça, c'est pas bon, ça, c'est l'égoïsme. Juste assez. Seigneur, donne-moi l'abondance. que je peux être généreux, que je peux bénir. Amen. Il y a un monde à sauver. Dieu cherche des hommes et des femmes à qui il puisse donner l'abondance. Le psalmiste dit, ma coupe déborde. C'est ce que Laure et moi nous avons pris depuis longtemps, parce qu'on a vu les gens qui ont fait des vœux de pauvreté, et dans leur pauvreté, ils ont pu aider personne. Oui, nous avons fait un vœu de prospérité et d'abondance. Nous voulons tout, Seigneur, que tu veux nous donner, et nous avons... Je savais que quelqu'un allait le faire, je ne pensais pas que c'est moi. Laisse-la, ce n'est pas grave. Hallelujah. Donne-nous, Seigneur, la prospérité, parce que nous voulons être généreux et nous voulons bénir le plus grand nombre. Amen. Deuxième verset, 1 Jean 3, 8. Juste avant Apocalypse, vous avez les trois épîtres de Jean. Et il dit en verset 8, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Il est venu sur terre pour détruire les œuvres du diable. Il est venu dans votre vie pour détruire les œuvres du diable. Quelle est votre réponse à cela? Oui, Seigneur, je veux que toutes les œuvres du diable dans ma vie soient détruites. Amen? Oui? Hallelujah. Encore un autre? On est en 1 Jean 4:4. Comme je l'ai dit, la première réponse à la parole, à une bonne nouvelle, c'est de parler. Il dit en 1 Jean 4:4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Quelle est notre réponse? Oui, Seigneur, je peux faire face à n'importe quel obstacle, n'importe quelle situation, n'importe quel problème parce que je ne suis plus seul. Le plus grand habite en moi. Jésus, par son esprit, habite en moi. Amen. Quelle est notre réponse à cette parole? Un dernier verset. Romains 8, 3. Oh, que c'est merveilleux ces Écritures. C'est des choses, tu vois, à souligner, à citer, à méditer et à vivre. Romains 8, 32 dit ceci. Lui, parlons de Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré, hallelujah, pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Tout ce qu'il nous faut pour la vie, pour l'abondance, pour que nous puissions être généreux, pour qu'on puisse être des sources de bénédiction. Il a donné Jésus, nous fêtons Noël. Il va nous donner toutes choses aussi. Amen. Hallelujah. Je vous demande à vous lever. Merci Seigneur que nous faisons la bonne réponse à la parole de Dieu. Dieu vous a donné des promesses précises. Il y a des choses dans votre cœur. Et peut-être vous avez essayé d'atteindre ces choses. On dit, je ne vois pas comment ça peut se passer. Dieu vous a donné des promesses et vous avez souligné les choses dans votre Bible. Vous avez même avez écrit et vous avez fait des petites posters ou des notes et vous les avez plaquées dans votre maison. Il faut les reprendre et dire, Dieu l'a promis. Je m'accorde avec Dieu. Qu'il me soit fait selon sa parole. Que cette parole devienne réalité. Ça manifeste dans ma vie, dans ma famille. Mais John, j'ai l'impression quelquefois qu'on commence à croire quelque chose, que les choses vont s'empirer. Oui, mais le diable veut toujours qu'on regarde. Amen. Mais il faut croire, il faut déclarer avant de regarder. Et si les choses pendant un moment s'empirent, ne vous effrayez pas. Croire seulement. Jésus a dit ça à un homme, son enfant venait de mourir. Il dit, ne crains pas, crois seulement. Il a ressuscité l'enfant. Quelqu'un, chose, est-ce qu'il est trop difficile pour Dieu? Absolument pas. Oh, merci Père. Je ne sais pas si vous êtes tous chrétiens ce matin, si vous avez invité Jésus d'entrer dans votre vie, mais vous savez, c'est Noël. Et le cadeau que Dieu offre à Noël, parce que nous allons offrir et recevoir les cadeaux de plein de gens, n'est-ce pas? Oui. Mais le cadeau que Dieu offre à Noël, c'est Jésus-Christ, son Fils. Et si vous n'avez jamais ouvert votre cœur, vous pouvez le faire ce matin. J'ai marqué sur l'écran, il y a un prière que nous avons formulée ensemble, si vous voulez le formuler. Oui. Et vous voulez inviter par ce même moment Jésus d'entrer dans votre cœur, il va venir. Dis avec moi, je crois que Jésus est mort à ma place. Je crois qu'il a payé pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité le troisième jour. Je fais de Jésus mon Seigneur et Sauveur personnel. Je suis maintenant enfant de Dieu et j'ai la vie éternelle. Je crois et je suis sauvé.